Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'AJT du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
Il y a une date très importante à ne pas manquer en tant que citoyen français et européen. Il s'agit des élections européennes qui auront lieu le dimanche 9 juin 2024. Et lorsque l'on parle d'Europe, parfois on ne se rend pas bien compte des enjeux qui se trouvent derrière tout ça. Quel impact sur notre pays, sur notre département, sur notre quotidien? Qu'est-ce qui se décide au Parlement européen? Qui et comment sommes-nous représentés? Et bien voilà, avec Isabelle Rupin de Radio Fidélité, nous avons eu envie de poser ces questions à Michel Ferron, ancien président de la Maison de l'Europe à Laval, et Sophie Envroin, chargée de mission au sein de la Maison de l'Europe. C'est l'interview d'aujourd'hui que l'on écoute dans quelques petits instants, mais laissez-moi d'abord vous parler de la suite de cette émission, puisque l'on revient aujourd'hui sur le projet Odyssée, qui a débuté en novembre dernier. C'était le moulage des visages des habitants lavallois. On s'était rendu sur place. Les habitants nous racontaient leur expérience et la compagnie Lézard, à l'origine de cette création, nous parlait de l'ensemble du projet. Puisque oui, ça y est, la dernière étape du chantier participatif approche. Elle aura lieu durant 4 jours, du 18 au 22 mai. On avait envie de revenir sur le commencement de cette belle aventure et ça sera en seconde partie d'émission. Bienvenue à vous, amis auditeurs, dans cette agité du local. Je suis Margot. Nous sommes le lundi 6 mai. Et on commence cette émission ensemble avec Isabelle Rupin de Radio Fidélité, Michel Ferron et Sophie Envoin de la Maison de l'Europe. Écoutez.
Du 6 au 9 juin 2024, dans les 27 pays membres de l'Union européenne, les citoyens européens seront appelés aux urnes pour désigner les députés qui siégeront à Strasbourg en tant que membres du Parlement européen. Sur les chiffres des députés, suivant les sources, ça varie de 705 à 720. Donc vous nous donnerez peut-être la réponse. Et en tout cas, on a 71 députés français à élire, hein, donc en tant que représentants au Parlement européen. Et aujourd'hui, donc, on va essayer peut-être de se sensibiliser à ces élections et puis de comprendre et de voir l'évolution du Parlement, son visage et l'évolution du mode de scrutin. Pour cela, nous allons être aidés par deux membres de la Maison de l'Europe. Sophie Envroin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission donc à la Maison de l'Europe. Et Michel Ferron, vous êtes ancien président de la Maison de l'Europe pour Laval, toujours. Bonjour.
Oui, bonjour. Toujours membre du bureau et du CA et en même temps devenu secrétaire général de la Fédération nationale des Maisons de l'Europe.
Voilà, c'est dire que nos invités savent de quoi ils parlent. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en disant on avait l'impression qu'on avait besoin de motiver un petit peu les électeurs. Alors, si on regarde les taux d'abstention qui ont été assez importants par le passé, on voit que les dernières élections en 2019, il y a eu un petit rebond qui mettait la participation au-dessus de la barre des 50%. Alors, que pensez de ces chiffres d'abstention, de participation? Est-ce que vous sentez une désaffection ou un non. intérêt?
Non, on pourrait le craindre, il faut le redouter, et on aura l'occasion de dire tout à l'heure, Sophie et moi, qu'il y a malheureusement un contexte qui va pousser les gens peut-être à plus voter. Mais sur ces chiffres, il faut leur faire un mauvais sort. 2019, on a dépassé les 50%, et notamment en Mayenne, plus qu'ailleurs. On s'était même accordé, nous, un cocorico en disant que c'était grâce à nous. C'est pas tout à fait faux, parce qu'on avait bossé comme des bêtes. Et puis,
donc,
si vous regardez bien les
chiffres... Donc, hommage vous soit rendu sur ça.
Oui, non, voilà. Mais si vous regardez bien les chiffres, en les comparant à d'autres taux de scrutin pour les élections nationales, ça place les européennes, finalement, juste derrière des élections plus connues, comme les régionales, départementales, voire municipales. La palme, évidemment, revenant aux élections présidentielles, 75% au deux tours. Mais je veux dire par là que, non, en s'appuyant sur les chiffres, c'est pas si catastrophique que ça. Et, alors, je passe tout de suite à ce que je laissais sous-entendre. Grâce ou à cause du contexte politique, géopolitique, les citoyens honnêtes qui se posent des questions sont plus fondés que d'habitude à venir voter. Qu'a-t-on vu pendant la mandature qui s'achève? Une crise sanitaire qui a fini par être jugulée, pas grâce à l'Europe, mais dont l'Europe s'est occupée avec un plan de vaccination mondiale qui était même en Europe, alors que l'Europe n'avait pas et n'a toujours pas de compétences en matière de santé. Et puis surtout, bien sûr, la guerre russo-ukrainienne, qui arrive à sa troisième année d'existence, où là, l'Europe retrouve sa vocation fondamentale, celle de la paix. Et les citoyens, sans vouloir brandir des épouvantails, savent très bien que les antagonismes entre les blocs sont renforcés, hein, entre la Chine, le tsar Poutine, puis même l'Inde. Il y a des recompositions. L'Europe, plus que jamais, peut devenir l'arbitre. Et déjà, sur le Covid et en Ukraine, elle est devenue une Europe qui protège. Elle est même allée, pour la première fois de son histoire, à financer des plans d'assistance militaire à l'Ukraine. Donc, je veux dire par là, pour conclure là-dessus, que l'Europe de 2024 n'est plus celle de 2019. Elle a grandi, tout en se rappelant qu'on est quand même une communauté très jeune, puisque l'Europe est née en 1950. Elle a tout au plus 75 ans, même pas.
Donc si on remarque un enjeu important de ces élections parlementaires européennes, est-ce qu'on peut revenir, pour commencer peut-être, sur le rôle du Parlement européen et quelle est son importance dans le fonctionnement de l'Union européenne ?
Comme tous les parlements, il est là pour échafauder des lois, les débattre, les faire voter, si possible les appliquer. Mais on est en présence d'une... On l'oublie souvent, et je voudrais bien que les gens se le rappellent en allant déposer leur bulletin. L'Union européenne est la seule assemblée démocratique dans le monde à être issue d'un scrutin majoritaire à un seul tour, aboutissant donc à 760 et quelques personnes. Il n'y a pas d'exemple comparable ailleurs.
Et au suffrage universel.
Au suffrage universel. Donc, c'est pas rien. Alors, les députés qui vont sortir des urnes vont se retrouver dans des groupes politiques. Une minorité se retrouvant dans des groupes non inscrits parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds.
Donc ils ont été exclus de leur précédent parti aussi, pour des affaires de corruption.
Et puis certains donc, ont maille à partir avec la justice.
Et malgré tout, ils sont éligibles.
Eh bien, attendez, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin, et je vais anticiper, mais si la justice française, je ne fais pas une remarque ici anti-citoyenne, avait plus de courage, elle avait les moyens de rendre inéligibles les candidats du Rassemblement national qui sont actuellement en procès sur leur instrumentalisation des assistants parlementaires. Le procès aura bien lieu, mais sur le mois de septembre. Moi, ça me met hors de moi. Mais en même temps...
Ça peut peut-être expliquer, effectivement, un certain désintérêt
un dégoût. Quand on pense que...
On va revenir, pardon... Oui. Parce que le temps tourne. Je crois qu'il faut revenir à la question que posait Margot.
Donc le rôle du Parlement européen, quelle est son importance ? Parce que le Parlement est une institution parmi toutes les institutions européennes.
Le rôle du Parlement, c'est de voter les lois en lien avec le Conseil de l'Union européenne, donc de débattre avec le Conseil de l'UE. Voilà, c'est ça le rôle du Parlement.
On met souvent en parallèle le peu de pouvoir du Parlement européen et le fort pouvoir de la Commission.
Oui, bah oui. La Commission, c'est l'exécutif. Et là, on rentre dans le détail du fonctionnement. La Commission, c'est 27 commissaires, un par pays, non pas élus, mais désignés.
Par les chefs d'État et de gouvernement.
Voilà.
Donc, pas issus de la même...
Non. Et puis il y a donc... Ça aurait été trop simple si on les avait appelés autrement. Je trouve toujours pas commode qu'on dit Conseil européen et Conseil d'Europe. Puis donc, l'autre, qui est une assemblée à géométrie variable, puisqu'elle est composée des ministres qui veulent changer en fonction du sujet traité.
Après, une loi ne peut pas être votée sans l'accord du Parlement. Donc voilà. Le Parlement a quand même une grosse importance dans les institutions. Et le Parlement a de plus en plus de pouvoir par rapport au tout début de l'Union européenne.
Oui, c'est ça. Il y a eu une évolution. Mmh. Et par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous lister quelques domaines où le Parlement a un réel pouvoir ? Donc on a exclu le domaine de la santé. Michel Ferrand, vous nous l'avez dit.
Je suis obligé, malheureusement, d'exclure celui de la défense. Mais ça va changer, je suis sûr. C'est anecdotique, mais c'est vraiment anecdotique. Aujourd'hui, vous franchissez une frontière avec votre portable, vous avez un forfait qui s'installe sur votre smartphone.
Les frais d'itinérance, ça s'appelle.
Les frais d'itinérance, voilà. Non, c'est anecdotique. Mais alors, il y a aussi, il y a une récente, elle est connue parce que c'était il y a 15 jours, 3 semaines, une disposition qui a échoué. Le projet d'interdire aux seniors de conduire sur l'Europe. C'était parti, c'était bien parti. Moi, je craignais pour mon permis. Hein.
Je ne demanderai pas votre âge.
Non, je ne suis pas concerné encore. Et puis, c'était retoqué. Bon.
Par l'Europe.
Oui, par, la, oui, par le Parlement.
Oui, par le Parlement.
Mais c'est, bon, c'est une bricole. Et j'en viens à d'autres sujets peut-être plus importants. Mais ce qui est si rassurant, c'est que si on prend le Covid, moi j'étais rassuré. Quand j'ai vu le Covid démarrer, je me suis dit, vous savez, bon, l'Europe va mettre en avant son impuissance. On peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens structurels et fondamentaux. N'empêche qu'elle a su franchir cette impuissance. Donc il ne faut vraiment pas désespérer. Et l'Europe peut s'enrichir. Et je pense qu'à partir de 2024, elle va s'enrichir. Elle n'a pas le choix.
Si on pense à l'impact direct que ça peut avoir, par exemple, sur les citoyens français, les décisions du Parlement et ce qui est débattu au Parlement européen.
Alors ça, c'est notre domaine. Et Sophie va pouvoir vous parler de ça en détail. Nous, c'est notre job, ça. Démontrer aux Mayennais, puisqu'on est départementaux, que l'Europe, c'est dans le quotidien.
Bah, Michel a déjà donné l'exemple des frais d'itinérance. Après, sur le territoire mayennais, par exemple... Ça peut être la rénovation de lycées, rénovation thermique et énergétique des lycées. Ça peut être rénovation du musée Robert Tatin, aussi donner des fonds pour des festivals comme le Festival de l'Arbre Bavard. Ça, c'est sur le territoire mayennais. Toutes les lois doivent passer par le Parlement. Donc, en fait, tout ce qui est décidé par l'Union européenne est passé par le Parlement.
On n'a pas forcément assez le temps, mais est-ce qu'on dit un petit volet de la politique en matière d'écologie, la oui, politique alors, européenne,
pour compléter
ce sujet qui fâche.
Compléter ce que vient de dire Sophie, c'est ce qu'on appelle les fonds structurels, FEDER, FEADER, et le FSE, pardon, sur le plan social. C'est-à-dire que ce sont des fonds européens qui sont versés sur des dossiers d'aménagement du territoire à des maires, des présidents de Comcom qui en font la demande. Et il y a aussi, alors la PAC, bon, oui, l'écologie, c'est votre question.
Oui, absolument.
Eh bien, force est de reconnaître que, alors qu'en 2019, c'était le slogan à fond, prioritaire, c'est plus le cas. Il y a un sondage qui est éclairant sur France Info il y a 15 jours. Des jeunes sont interrogés qui disent, on ne croit plus, nous, jeunes, à la décarbonation totale en 2050. C'est illusoire. De même qu'il faut cesser de mettre en avant les revendications écologiques. Et il y a un instrument qui permet de le mesurer, et c'est un regret que les Français ont, mais ça c'est à cause, enfin, on va pas leur jeter la pierre, des agriculteurs. Quand ils ont défilé avec leur tracteur il y a quelques mois, c'était bien pour ça, contre l'interdiction des phytosanitaires et des pesticides. Et la PAC, jusqu'il y a encore quelques années, j'ai mémorisé que c'était la PAC, c'était pendant longtemps... La moitié du budget total de l'Europe. La moitié. Alors, quand vous avez des paysans qui défilent et qui braillent sur l'Europe, supprimer la PAC, eh ben, il y en a qui vont déguster. Oui, c'est réducteur, mais la nouvelle PAC, elle verdit de moins en moins.
Hélas, c'est peut-être justement ce qui fâche hein, certains oui. électeurs. Hein.
Alors que, paradoxalement, oui. le pacte c'est... vert, ça fait partie des priorités de la Commission européenne. Mais oui, avec le glyphosate récemment, c'est...
Merci de ce rappel, effectivement,
oui, mais
Sophie.
Le Green Deal, hein, le pacte vert, c'est un slogan. C'est un slogan. Alors, c'est quoi, pour terminer quand même ? Il n'y a pas d'Europe de la défense. Il n'y en a pas. Même si on a de façon dérisoire envoyé des sous à l'Ukraine, on n'a pas d'Europe de la défense. Et je pense qu'il y a des électeurs conscients des enjeux, attendent de la nouvelle mandature que des choses se mettent en place. On a failli avoir une Europe de la défense en 1954, c'est loin. Et ça s'est cassé la figure. À cause de la France, d'ailleurs.
Ça peut être une des pistes d'avenir pour l'Europe de demain.
Une piste, non, c'est plus que ça, c'est un enjeu fondamental. Un enjeu,
ouais. Est-ce que, Sophie, vous qui êtes chargée de mission donc, à la Maison de l'Europe, est-ce que vous pouvez nous rappeler pour qui on va voter, en fait ? Alors, pas forcément la liste, hein, mais le mode de scrutin, on a dit que c'était au suffrage universel, hein, des 81 députés français qui siègeront à Strasbourg.
Bah, on vote pour une liste et pas pour un candidat. Et on vote juste un tour. C'est juste un tour, les élections européennes.
Et c'est une liste au niveau national.
Oui.
Il n'y a pas si longtemps, c'était par région.
Oui, oui, c'est
du
national.
Du coup, là, ça brouille un peu les pistes. Mm-hmm. Enfin, voilà. Donc là, maintenant, ce sont des listes au niveau national. Mm-hmm.
Attendez,
Michel Ferron.
Ce sera plus compliqué encore si on va mettre en place, mais ce n'est pas mûr, les listes transversales.
Aïe.
Là on s'y retrouvera pas.
Bon. Merci.
Alors,
merci Michel Ferron, merci Sophie Envrin d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Margot.
Merci Isabelle. L'agité du local continue, on met les mains dans la terre, ou devrais-je dire plutôt le visage dans l'argile, puisque l'on revient dans 2 minutes sur le projet Odyssée à Laval. Mais avant ça, une pause s'impose. On écoute Taxi Boy de Ralph TV. De retour dans l'agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. De la vie dans la ville. La semaine dernière, nous avons reçu Charlène Oudéyer pour présenter la prochaine édition du festival Les Trois Éléphants. Et bien sachez que pendant le festival, vous pourrez découvrir l'étape finale du projet artistique L'Odyssée, porté par la compagnie Les Arts. Souvenez-vous, ce projet a débuté début novembre 2023 au Théâtre de Laval avec le moulage de visage de Lavallois. On s'était rendu sur place, écoutez.
On va faire ton démoulage. Hop. Ça là, on va démouler les deux. Et puis on pourra relisser pour faire les... Là, on commence par enlever tous les petits bouts de plâtre qui sont partis à droite, à gauche. Quand je vais sortir le masque, vous allez voir, il y a plein d'endroits qui craquent. Là, tout ça, c'est juste le surplus. Étaler un peu d'argile.
Michel.
Donc vous êtes venu ici aujourd'hui pourquoi ?
En famille, pour faire un moulage de notre visage dans un projet artistique, voilà, qui aura lieu à l'exposition Square de Boston, voilà, au mois de mai, voilà, exactement.
Donc là, vous êtes en train de regarder tous les visages déjà moulés qui sont exposés. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression ?
Alors déjà, on les a regardés en arrivant pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Après, on a eu les explications qu'on pouvait mettre une main, deux mains, cacher nos yeux. Voilà, donc on a fait un petit choix avec mes petits-enfants et ma fille. Et puis, écoutez, ça s'est très bien passé. C'est vraiment extraordinaire parce que d'abord, on s'enduit d'huile. Donc, c'est très agréable au visage. On en met sur les cheveux. Et puis après, on a donc choisi notre position. Et on se met à genoux. Et on marque la pointe de notre nez sur la surface de la terre. Donc moi, j'avais choisi de mettre une main. Donc j'ai posé ma main. Parce qu'il faut obligatoirement que la main touche le visage qu'on va modeler. Et donc après, on s'enfonce dans la vase. Le monsieur délicatement nous appuie un petit peu sur la tête. On a pris une bonne inspiration et on remonte lentement pour ne pas détruire le moulage. C'est à la portée de tous les âges, de 2 à 79 ans. Il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'ils vous ont expliqué en combien de temps votre visage pourra avoir une forme finale ?
Alors, c'est-à-dire que là, on a fait un moulage. Donc après, c'est un travail pour eux intense. Parce qu'ils sont on les voit actuellement là, en train de remplir les visages avec du plâtre. Et ensuite, ils vont gratter les plâtres, éventuellement les teindre. Voilà. Il y a tout un travail après, artistique, on va dire, pour compléter le moulage. Donc on a hâte de voir nos choix. Hein. Ma petite fille l'a fait avec sa maman qui lui faisait un bisou. On peut faire à deux. Mon petit-fils voulait montrer son beau sourire. Et puis moi, j'ai testé le pouce et en tirant la langue. Parce qu'on peut aussi ouvrir la bouche, mettre la langue et la bouche dans la terre. Mais on a une sensation de douceur, en fait, quand on s'enfonce dans cette terre-là. C'est vraiment très, très agréable. Je le recommande à tout le monde. Je suis prête à recommencer, d'ailleurs.
Je peux te mettre en face si tu veux devoir sortir.
Gérald Aubert, je suis comédien au sein de la compagnie Les Arverts, une compagnie angevine de théâtre de rue qui existe depuis 1998. Alors aujourd'hui, on est sur une journée de baptême de terre qui est la première étape, le premier chapitre de l'Odyssée, qui est un spectacle de la compagnie Les Arverts et de Fred Martin, qui est un artiste plasticien lillois. En fait, on s'est associés pour créer ce spectacle il y a maintenant à peine 10 ans. Voilà, un spectacle avec une particularité, c'est une installation, un décor gigantesque. Donc là, aujourd'hui, on est sur le premier chapitre, la première étape qu'on appelle les baptêmes de terre, où on invite les habitants à venir plonger leur visage dans des bacs, des matrices d'argile. Donc les gens viennent un à un, on leur met de l'huile sur le visage, il y a tout un cérémonial, on va dire, et ils se plongent le visage dans l'argile en prenant une expression, en mettant la main ou pas, et ensuite on coule du plâtre dans l'empreinte et ça nous laisse un négatif. Les gens nous prêtent le double de leur visage qui va servir pour le spectacle, pour l'installation qui aura lieu en mai.
Là, on est un peu fragile, va falloir qu'on rajoute du plâtre pour le solidifier un peu.
Deuxième chapitre du spectacle, c'est l'installation. Et ça a lieu en mai, Square Boston, où on va venir avec un visage, une structure métallique, un visage de 6 mètres de haut, un visage géant, un squelette de visage. C'est la deuxième étape, on invite les habitants de Laval à venir et à nous aider à fabriquer la peau de ce visage. Donc c'est pareil, la matière est la même, c'est l'argile, c'est la matière avec laquelle on travaille. Donc là, on invite les gens à venir piétiner de l'argile et de la paille pour faire du torchis. Et on va enduire cette structure métallique pour faire la peau de ce visage. Donc la peau va être faite de toutes les petites mains des habitants qui vont créer cette peau. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est la mise en vie. Donc là, c'est le spectacle où il y a des personnages, des comédiens qui se baladent dans l'espace et qui invitent certaines personnes à rentrer dans la tête pour revivre ce baptême de terre, mais de façon un peu différente. Voilà, c'est un peu le chemisement de l'odyssée de ce spectacle sur Laval.
Ok. Donc, Noé, je vais venir au-dessus de toi, je vais poser mes mains sur ton visage. Mmh. Je vais appuyer sur ta tête. Tu peux essayer de faire suivre tes mains qui vont suivre un peu ton visage. Okay. Et quand j'enlève mes mains, je te demande de souffler tout doucement et de te retirer le plus lentement possible. Ce qu'on va faire, bouge pas. Je vais faire ça. Si tu peux. Ok. Tu mets ton visage au fond, Noé. Prendre ta respiration, Noé, et on y va. Souffle délicatement. Tu sors ton visage tout doucement. Tu laisses tes mains dedans pour le moment. Tu sors que ton visage.
On fait environ 70 moulages par jour. Peut-être ça va être 300 moulages. On a déjà fait à 500 moulages ailleurs, donc ça dépend. En fait, après l'installation finale, c'est ce grand visage dont je parlais tout à l'heure, qui fait 6 mètres de haut, et de sa bouche, les moulages sortent en fait. Et c'est des systèmes de câbles qui sortent du visage, un peu comme si c'était un flot de paroles. Il y a tous ces visages qui s'élèvent et qui montent dans le ciel. Donc voilà, là on va voir, il y a eu du monde jusqu'à présent, il y a pas mal de monde, donc c'est chouette.
Oh, c'est extra.
Notre point commun à tous dans la terre, c'est qu'on a le nez qui tord. C'est que du cartilage, on a tous ce point commun, c'est que les nez se tordent un peu.
Ils sont longs, ils se tordent.
Donc on va enlever les petits bouts, on va enlever les masques, je vais refermer et puis on va remettre.
Maintenant que vous avez bien en tête le tout début de ce projet artistique unique, notez bien que la seconde étape aura lieu du 18 au 22 mai au Square de Boston avec un chantier participatif pour édifier le visage monumental à base de terre et de paille pour donner vie donc à la forme finale de cette sculpture géante. La mise en vie de cette infrastructure sera le vendredi 24 mai et l'installation sera visible jusqu'au 2 juin. Je crois que l'on ne verra pas cela deux fois dans notre vie, donc ne manquez pas ces dates à bien noter dans vos agendas. Avant de se quitter, comme je n'aime pas tellement les au revoir, je vous propose d'écouter le dernier single d'un artiste que vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous le présenter. Il s'agit de Basil Palace et pour vous parler de lui, je vous dirais bien que c'est avant tout l'histoire d'un rappeur qui voulait chanter ou d'un chanteur qui voulait rapper. Une description qui pourrait être plus précise. Pour vous faire une idée, écoutez plutôt son single sorti il y a 2 semaines, 1000 morceaux de Basil Palace.
Basil Palace. Je me brise comme un pot de fleurs, toujours à fleur de peau. Je repousse tout faute de peur et les gens croient que je pleure pour de faux. Mais tu sais, j'ai autant de peine que de défauts. Si tu comptes jusqu'à 100, le compte sonnera toujours faux.
Tu sais, j'y penserai tous les soirs. Je suis pas rare, pas de défense en ivoire. Dorénavant, plus le temps d'y croire. Dans ma chambre et dans ma vie, j'aimerais bien t'y voir.
Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que tu sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que tu sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi.
Toujours dans un flot d'épreuves, autour de mots que j'effleure. Des pulsations qui pleurent et qui ralentissent chaque heure. Tout est froid sans ta chaleur et mon cœur est un lâcheur. Il se bat plus comme pacifiste, les blessures s'effacent pas si vite. Et si le ciel est bleu comme mes veines, il suffirait que je les ouvre pour que tout devienne rouge. L'orage fait rage, je sais que mes chansons sont vaines. Tu n'écoutes plus rien donc c'est après le temps que je cours.
Alors j'aimerais peut-être que mes doutes se dissipent comme ta présence. En un battement de cils depuis que je redoute ceux de mon cœur qui n'aime pas ce présent.
Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que tu sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que tu sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille.
mais je sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Et au fond de mon sang, toi tu bats dans mes veines. Mais je sais que ce n'est plus la peine. Et mon cœur se brise en mille morceaux de toi. Mon cœur se brise en mille morceaux de toi. J'écris mille morceaux sur toi. Quand mon cœur se brise en mille, mon cœur se brise en mille morceaux de toi. J'écris mille morceaux sur toi. Quand mon cœur se brise en mille.
L'agité du local s'arrête ici. Merci à Isabelle Rupin de Radio Fidélité, à Michel Ferron et Sophie Envoin de la Maison de l'Europe. On s'arrête ici, mais on reste sur les ondes de l'autre radio puisque votre soirée commence bien avec Solénoïde à 19h. Si vous ne connaissez pas encore cette émission, je peux vous dire que c'est comme un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique. Offrez-vous un mix transversal de musique pas banale pour commencer cette semaine. Ensuite, à 20h, c'est la discothèque du programmateur et à 21h, vous écouterez l'aléatoire. L'aléatoire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une émission musicale au programme rock rocambolesque, chansons acrobates, jazz désaxé, techno biscornu. Bon, vous l'avez compris, de quoi être étonné, voire même retourné. À 13h, donc dans quelques instants maintenant, c'est Regard d'ailleurs qui nous fait rencontrer aujourd'hui Jampa Lekden Lama, qui est né en exil en Inde, près de Darjeeling, dans la vallée de l'Himalaya en 1974. À l'âge de 7 ans, il devient moine et entre au monastère de Seradje, dans le sud de l'Inde, où il suivra durant plus de 15 années des études de philosophie et psychologie. Il arrive en France en 1997 en tant que traducteur et interprète. Il a traduit plusieurs ouvrages d'ailleurs et effectue régulièrement les traductions de maîtres. Regard d'ailleurs, ça commence dans quelques instants. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. On reviendra ensemble sur un très bel entretien, toujours d'actualité, avec Michel Bélanger de l'association Les Abeilles Mayonnaises. Si vous l'avez manqué une première fois, ne manquez pas sa rediffusion demain. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah c'est que c'est terminé.